Nous reprenons donc ce matin avec une matinée qui sera, pour les deux premières communications en tout cas, davantage axée sur Hetzel et la littérature jeunesse. Tout d'abord, Jean-Paul Gourevitch va nous parler d'Hetzel et de la littérature jeunesse. Il est le spécialiste d'Hetzel. Il lui a consacré un ouvrage très complet, très intéressant, dont vous pouvez apercevoir la couverture sur l'écran, paru donc chez Le Serpent à Plumes en 2005. Il a également consacré un certain nombre d'ouvrages à la littérature jeunesse et il a travaillé également dans d'autres domaines, notamment sur les questions de l'imagerie politique. Il me semble qu'il donne des cours à Paris 8, ou
voilà, Paris 12.
Paris 12, pardon, voilà, sur l'imagerie politique. Donc nous l'écoutons sur Hetzel et la littérature jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un petit peu difficile, après les exposés brillants d'hier sur des sujets pointus, style Hetzel et Baudelaire, Hetzel et Proudhon, ou bien André Laury, ou bien la première rencontre d'Hetzel et de Jules Verne, et j'en passe, et des meilleurs, de proposer une sorte de survol panoramique des rapports entre Hetzel et la littérature de jeunesse. On risque de voler trop haut et de ne pas permettre de voir le paysage, ou bien de s'attarder un peu et de ne pas être dans les temps. Alors je vais quand même essayer de tenir ce défi en disant simplement que je vais me fonder, pas simplement sur mon ouvrage, mais sur tout ce qui a été écrit récemment, notamment les petites brochures extrêmement précises faites par le fonds et la médiathèque de Sèvres qui abrite le fonds Hetzel sur les albums Stahl, sur la petite bibliothèque blanche, sur le magasin d'éducation et de récréation et sur mes propres travaux pour le bicentenaire et pour l'ABCDR illustré de la littérature de jeunesse que je prépare pour le mois de septembre. Alors, dans cette perspective, il y a un axe qui va me guider, qui est, je schématise un petit peu le suivant, le jeune Hetzel à 26 ans porte déjà en germe l'ensemble des projets et des intuitions qu'il développera 20 ans plus tard, et quand il sera à la fois un auteur et un éditeur reconnu, et que son fils, Louis-Jules, continuera d'une façon un petit peu plus besogneuse. Alors, je vais t'amener donc à parler de l'ascension de Hetzel. Je mets la résistible ascension, non pas pour reprendre le texte de Bertolt Brecht, mais parce que l'ascension de Hetzel a été freinée pour des raisons financières dans les années 46-47 et a été arrêtée quand il a quitté la France après le coup d'État de 1851. Je verrai après ce qui est la création d'une authentique littérature de jeunesse par Hetzel. Je m'attarderai sur ce que j'appelle un petit peu la méthode Hetzel, qui n'est pas très loin d'ailleurs du système Hetzel dont Masataka Ishibashi nous a parlé hier. Et puis je dirai quelques mots en conclusion de la postérité d'Hetzelstahl. Alors on aurait pu démarrer par les scènes de la vie privée et publique des animaux parce que déjà, dans ses deux premiers volumes publiés entre 1840 et 1842, nous avons l'ensemble des intuitions et des vocations que prépare Hetzelstahl. Il y a d'abord une répartition, Hetzel étant en quelque sorte l'éditeur et Stahl étant non seulement le rédacteur d'un certain nombre de textes, mais c'est lui qui a piloté l'illustration, la promotion et la diffusion. Deuxièmement, on a l'idée déjà de la recherche de deux publics. Cet ouvrage qui donne la parole aux animaux pour croquer les activités humaines avec humour, il peut être considéré d'un côté comme un ouvrage pour adultes par ses allusions, par son persiflage, mais il peut aussi, par ses illustrations, par ses héros animaliers, il peut aussi toucher un public jeune qui a été sensibilisé aux animaux qui parlent et à leurs aventures moralisatrices depuis La Fontaine, depuis les contes de Perrault ou depuis Casse-Noisette et le roi des rats, le conte d'Effman que Hesel chargera Alexandre Dumas d'adapter 2 ans plus tard. Donc dans cet ouvrage, on a à la fois la recherche d'auteurs connus, Balzac, Musset, Nodier, Georges Sand, l'appel à un illustrateur reconnu, Granville, et l'utilisation de techniques de promotion comme l'affiche de librairie dont Hesel sera un des premiers à faire la promotion. Mais je vais plutôt partir du nouveau magasin des enfants, c'est-à-dire cette collection lancée en 1843, dans laquelle Hesel souhaite offrir aux enfants, je cite, « des livres qui, après avoir amusé leur jeune âge, puissent laisser dans leurs souvenirs d'autres traces que ces livres médiocres qu'on met d'ordinaire dans leurs mains ». Et en fait, dans cette collection, on trouve en germe les 3 grandes vocations qu'Hesel développera dans ses productions pour la jeunesse. La première, c'est le choix des auteurs. J'avais déjà mentionné Balzac dans les scènes de la vie privée et publique des animaux. On a là Charles Nodier, Georges Sand, Alexandre Dumas. Donc tout ce qui s'écarte de ce que Hesel appelle la tisane littéraire et les plumes mercenaires, et qui seront rejoints plus tard par Victor Hugo, Jean Basset, Hector Malot, Alphonse Daudet, Herman Chatrian, etc., Jules Verne, bien entendu, et tous les auteurs étrangers. Deuxième point, l'importance accordée à l'illustration, puisque dans cette collection, j'ai volontairement modifié et déformé l'ouvrage, parce que c'est un tout petit ouvrage, pour que vous puissiez voir que non seulement il demande à Tony Johannot de mettre l'image dans le texte, ça c'est pas complètement original, même si ça relève de la gravure de bois de boue et des techniques déjà utilisées par Turmer, mais il va beaucoup plus loin, puisque vous le voyez, sur l'autre page, il favorise l'intégration du texte à l'intérieur de l'image, ce qui est véritablement une nouveauté. Et on va voir dans tout cet ensemble l'importance que Hesel va donner à l'illustration. Enfin, il y a le choix du terme « magasin », référence et révérence, si j'ose dire, à Madame le Prince de Beaumont, terme qu'il reprendra à partir de 1864 dans son magasin d'éducation et de récréation, pour indiquer qu'on y trouve à peu près tout ce que l'enfant et sa famille peuvent désirer. Alors, vous avez après cette longue pause qui date de son exil à Bruxelles et dans lequel, Jean-Yves Mollier a parlé de sa fonction d'agent littéraire. Bon, c'est pas tout à fait mon point de vue, mais je ne vais pas ouvrir un débat avec quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il n'aurait pas la possibilité de me répondre. Je pense que Hesel a été bien plus qu'un agent littéraire dans cette époque. L'important, c'est que quand il va revenir de son exil à Bruxelles en 1859, il a plein de projets en tête concernant la littérature de jeunesse. Il va s'efforcer de les mettre en œuvre. Alors, je vais passer très très vite, puisque Patrice Soulier va intervenir tout à l'heure sur les contes de Perrault, ce grand livre très cher pour les petits-enfants, et je vais m'attacher aux 3 grandes idées qu'il va lancer sur la littérature de jeunesse: les albums Stahl, la petite bibliothèque blanche et le magasin d'éducation et de récréation. Alors, ce qu'on va appeler à partir de 1870 les albums Stahl sont nés de l'association en 1862, de Hesel qui signe les textes d'accompagnement soit P.J. Stahl, soit Un papa, et de l'illustrateur danois Laurence Frölich qui a pris comme modèle sa propre fille Edma. Le premier de ses albums Stahl, La journée de Mademoiselle Lily, figure sur le catalogue des Trains 1863 de la collection Hetzel, avec un encadrement de dentelle conçu par le relieur Engel. Sur ces albums Stahl, il y a un très beau travail qui a été fait par Robert Soubret pour la bibliothèque médiathèque de Sèvres, car il a classé systématiquement les titres, les couvertures et les cartonnages. Les albums Stahl, c'est finalement 199 volumes, dont 63 qui sont en couleur avec des formats qui seront rapidement normalisés, les autres en noir et blanc, et on peut dire que d'une certaine façon, cette collection elle est caractéristique à la fois des choix et des illustrations et des hésitations d'Hetzel Stahl. Si on prend par exemple le frontispice ou les pages intérieures, on s'aperçoit que c'est du Frolich, hein. On s'aperçoit que Mademoiselle Lily n'est pas, contrairement aux séries existantes à l'époque, n'est pas l'héroïne principale de ces albums. Elle ne correspond qu'à une vingtaine d'albums, et on verra son cousin Lucien, on verra Monsieur Paul et Toto, qui sont d'ailleurs signalés là, et qui vont faire des apparitions épisodiques, et on verra aussi d'autres personnages, Monsieur Jujule, Papa et Maman, qui sont tous les deux en voyage, on verra des personnages qui ne sont en fait que des, on pourrait dire, des incarnations de défauts. Je cite quelques titres, Hector le fanfaron, Zoé la vaniteuse, Mademoiselle Pimbèche. On verra des animaux comme Caporal le chien du régiment ou le journal de Minette, et on verra des anecdotes ou des petites histoires devenues par la force de ces albums Stahl, des histoires exemplaires. Vous avez là deux albums réalisés pour la partie illustration par Froment, la couverture du plat mystérieux et le frontispice de Michel et Suzon. Et on pourrait dire au fond qu'à travers ces albums Stahl, Hetzel a un petit peu l'idée de dépeindre ce que Louis de Ratisbonne appelle de son côté la comédie enfantine, peut-être un petit peu à la manière dont Balzac avait dépeint la comédie humaine. Alors c'est une collection qui est spécifiquement destinée à l'enfance, qui peut rappeler aussi, si on prend la partie biographique, au père le souvenir de sa fille disparue à 13 ans pendant son exil à Bruxelles, mais les choix qu'il fait, le choix du noir et blanc et de la couleur, la variété des couvertures et des cartonnages, on a compté 13 types de plats différents. Bon, ça ajoute à la diversité, ça ajoute à la complexité de l'enfance. Tous les textes sont soit de Hetzel lui-même, et soit quand son fils reprendra la collection, il sous-traitera à Gilles Hermon, qui est en fait le pseudonyme de Madame Sobolevskia. Ils vont faire appel à des illustrateurs différents. J'ai cité Frolich et Froment, mais vous avez aussi Geoffroy, Tinan, Adrien Marie, Schuller. Ils vont multiplier les rééditions. Ils vont même parfois regrouper des titres en un seul volume. Vous avez par exemple Les passants de Monsieur Lucien, vous le voyez en dessous, ce sont deux volumes différents, ce sont Cerfagile d'un côté et Le terrible ours de Sibérie de l'autre, qui ont été regroupés dans un même volume, et c'est un petit peu, on va le voir, le système Hetzel qui consiste à varier les contenants tout en gardant les contenus. Alors, chaque album a son charme, ces albums sont d'une certaine façon quand même un témoignage relativement neuf et original sur l'enfance et sur les livres de l'enfance dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, je vais passer à la petite bibliothèque blanche, dont je vous présente ici quatre couvertures différentes. La petite bibliothèque blanche, elle n'apparaît qu'en 1879. Son nom est dû au départ à la couleur de la couverture des exemplaires brochés. Elle comporte 81 volumes avec une gamme de couvertures très variées. J'en ai donné quelques exemples là. Vous avez la couverture au décor floral, la couverture au médaillon, la couverture à la double image et la couverture qu'on appelle à la Geoffroy, parce que Geoffroy a été un des grands illustrateurs d'Hetzel et a mis en place un certain style de couverture. Alors, c'est une collection à bas prix, 2 francs pour le brochet, 3 francs pour le cartonné, et c'est une collection patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va trouver très peu d'ouvrages nouveaux. Hetzel va puiser dans son fonds, puiser de telle façon que voilà par exemple un même ouvrage, Monsieur Tcherville, l'histoire d'un trop beau chien, et vous avez 2 couvertures différentes, une couverture en médaillon et une couverture au décor floral. Et on va s'apercevoir que c'est un principe général de la méthode Hetzel, faire varier les contenants tout en gardant les mêmes contenus. Si on étudie les auteurs de cette collection, on voit qu'il y a très peu d'inédits. Ce sont toujours les mêmes, Alexandre Dumas, Eugène Muller, Charles Nodier, Georges Sand, Jules Verne, Viollet-le-Duc et évidemment l'inévitable P.J. Stahl. Troisième grande opération, le magasin d'éducation et de récréation. C'est une aventure qui est menée par le triumvirat Hetzel, Jean Massé, Jules Verne, et qui va durer de 1864 à 1906, date à laquelle la publication disparaît. Alors, au début, cette publication marche assez bien parce qu'elle s'adresse à toute la famille. On monte progressivement vers les 10 000 exemplaires et Hetzel va en profiter pour racheter son concurrent Hachette, ou plus exactement la semaine des enfants de ce concurrent Hachette. Par contre, Hetzel ne va pas voir l'évolution de cette littérature de jeunesse, et surtout son fils Louis-Jules va être débordé, d'un côté par le renouvellement des magazines d'éditeurs, Hachette furieux que Hetzel lui ait récupéré la semaine des enfants, va mettre en place Bon Journal et va mettre en place, en dehors des livraisons régulières, des couvertures reliées et illustrées qui permettent de regrouper une année ou une demi-année. Et puis surtout, il va y avoir la marée des illustrés. Je rappelle que la semaine de Suzette est de 1905. Alors, l'objectif de ce bimensuel, c'était de constituer un enseignement sérieux et attrayant qui plaise aux parents, qui profite aux enfants. Je reprends le texte d'Hetzel lui-même, qui disait « Je veux faire de mes abonnés des coopérateurs ». Et en fait, il y a une bonne répartition dans le triumvirat. En ce qui concerne la vulgarisation scientifique, c'est Jean Massé qui aborde les sujets sous forme narrative. En ce qui concerne les aventures et l'anticipation, c'est Jules Verne. Et en ce qui concerne les histoires en images pour les enfants, c'est Stahl qui va faire appel essentiellement à des illustrateurs comme Fromont, Frolich, Tinan, je les ai cités tout à l'heure. Alors en fait, si on regarde la véritable fonction que va prendre progressivement ce magasin d'éducation et de récréation, ça va être une vitrine de promotion de la maison Hetzel. Vitrine de promotion avant, c'est-à-dire que la prépublication va permettre de tester l'impact des ouvrages qu'il publiera après en volume. Et aussi vitrine de promotion après, car quand on regarde de très près les critiques, parce qu'il y a des petites critiques littéraires qui sont faites dans le magasin d'éducation et de récréation, eh bien ces critiques sont en général axées sur les ouvrages publiés par la maison Hetzel. Il n'est pas le seul à faire cela. J'ai, en dépouillant la poupée modèle de Hachette, je me suis aperçu qu'Hachette fait exactement la même chose et que les ouvrages qui sont chroniqués par la poupée modèle sont les ouvrages de la Bibliothèque Rose de la maison Hachette. Alors ça m'amène à la question de la méthode Hetzel, et je vais traiter de deux points, la direction éditoriale d'un côté et le marketing éditorial de l'autre. La direction éditoriale, depuis le début, depuis 1840, Hetzel, qui est à la fois directeur et coordinateur des ouvrages, considère qu'il est maître à bord, qu'il est responsable du choix des auteurs et du choix des illustrateurs et aussi de la qualité et du contenu des ouvrages sur lesquels il met sa griffe. Il annonce un petit peu ce que fera Gallimard un peu plus tard. Et du coup, ses rapports avec les auteurs, je vais passer assez rapidement parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais sont des rapports qui sont à la fois teinté d'humour et aussi conflictuel. Tout le monde connaît cette phrase à Balzac à laquelle il arrache une préface. « À l'œuvre, mon gros père, permettez à un maigre éditeur de parler ainsi à votre grosseur. » Vis-à-vis de Nadar, avec lequel en 1949 il a fait la revue comique pour tailler des croupières au prince-président, et qui le publiera plus tard, dont il publiera plus tard le droit au vol en 1865, le texte est un peu du même style. « Vieille horreur de Nadar, je t'achète le droit de tirer à 1500 exemplaires la vieille robe de Déjanire sous un autre titre que tu devras m'envoyer le plus rapidement possible si tu ne veux pas que j'en déniche un moi-même. » Tout en publiant George Sand, il fait refaire les dessins de son fils Maurice Sand, qui ne lui plaisent pas beaucoup, par Nanteuil. Et alors, quand on lit le journal des Goncourt, les Goncourt notent avec ironie, quand Hetzel les fait trop refaire, colère terrible de George Sand, quand il les refait pas assez, reproche d'Hetzel. En ce qui concerne Victor Hugo, alors là, nous savons deux tempéraments explosifs. Hetzel veut absolument que Hugo lui donne des poèmes pour enfants qu'il va regrouper dans son édition, l'ouvrage Les Enfants, qui paraîtra en 1858 chez Hachette, puis en 1861 dans sa bibliothèque illustrée des familles, illustrée par Froment. Hugo refuse. Alors les rapports entre Hetzel et Hugo se tendent. Je vous lis un passage d'une des lettres que Hetzel adresse à son cher et grand ami Victor Hugo. « Vos arguments sont bons en ce qu'ils ont de bon et ne valent pas le diable en ce qu'ils ont de trop absolu. La vérité est ronde, non carrée. Un angle est un défaut. Fichez-vous ça dans la tête, poète, 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 archipoète. » Et même s'il ajoute un petit peu avec humour pour adoucir les angles, quel volet vous allez m'envoyer, comme j'ai bon dos, il va revenir à la charge après la réponse de Hugo. Vous avez tort, vous êtes un épicier, et je le dirai sournoisement dans l'édition banale que vous allez me forcer de faire. N'importe, vous serez satisfait, et je m'en plaindrai aux échos de Guernesey en août. Trembler. Il n'est pas facile de traiter Victor Hugo d'épicier, et d'ailleurs, il y aura une rupture entre Hugo et Hetzel au moment des Misérables pour des questions d'argent. C'est d'ailleurs aussi, et on l'a bien souligné hier, pour des questions d'argent que Hetzel rompra avec George Sand, dont il a pourtant largement contribué à la célébrité et dont il est le confident. Je cite « Je vous ai aidé, moi, longtemps et gratis, à gagner de l'argent. J'en ai gagné et très peu et pendant peu d'années avec vous. Vous avez, par une mauvaise direction, détruit la moisson que je vous préparais. » Alors c'est évidemment quand il va s'installer à Paris au 18 rue Jacob qu'il va donner la mesure de ce qu'il considère comme son devoir d'éditeur. On a dit largement qu'il a tyrannisé un petit peu Jules Verne, qu'il a corrigé, changé les titres, les noms, les personnages, refusé l'oncle Robinson et Paris au XXe siècle, jusqu'à ce que Jules Verne fasse mine de se révolter. Ce qu'on a moins vu, c'est la façon dont il travaille avec ses illustrateurs, et notamment avec le cahier des charges qu'il leur impose. Il faut voir que Hetzel agit avec ses illustrateurs comme il agit avec ses auteurs. Il veut tout contrôler. Comme il n'a pas du tout envie de payer des voyages à ses illustrateurs pour qu'ils aillent en Amazonie ou en Sibérie, il leur demande deux choses. Premièrement, débrouillez-vous pour que vos images, elles soient les plus vraisemblables possibles. Alors là, vous avez un Nizhny Novgorod qui a été fait avec les personnages devant et puis l'arrière-fond de Nizhny Novgorod derrière, qui est un peu un Nizhny Novgorod de fantaisie, tout en respectant une certaine vraisemblance. Et il impose aussi aux illustrateurs de penser un frontispice qui va en quelque sorte être, au fond, une sorte de synthèse de ce que vous allez trouver dans dans le volume lui-même. Ça, c'est la partie, en quelque sorte, cahier charge des illustrateurs, mais il y a bien pire, si j'ose dire, c'est ce qu'il va faire quand il va se mettre à revraiter ses auteurs. Alors, là-dessus, je me suis intéressé à la façon dont il parlait des auteurs avec lesquels théoriquement il collabore. Dans l'histoire de la famille Chester et des deux petits orphelins qu'il signe avec William Hugues pour la Bibliothèque Blanche, il avoue très crûment, je cite, « Nous avons gardé du livre anglais tout ce qu'il avait d'aimable et de bon. Nous lui avons ajouté tout ce qui, selon nous, lui manquait pour conquérir notre public français. » Et dans la préface au conte de Tante Judith que vous avez là, et qu'il signe avec William Hugues aussi pour la petite Bibliothèque Blanche, il avoue crûment. Alors, il y a une préface, et dans cette préface, signée par les éditeurs, c'est-à-dire bien entendu par lui-même, il se définit comme ce conteur exquis, ce spirituel humaniste, cet aimable et délicat moraliste, mais aussi le plus habile des adaptateurs, et il ajoute, en parlant de lui-même à la troisième personne, « Combien de productions étrangères a-t-il reprises, transformées, en faisant en quelque sorte des livres nouveaux qu'il savait approprier à ses lecteurs français sans en altérer la saveur indigène ?» Mais je crois que c'est avec Maroussia, c'est-à-dire Madame Markovitch, qui a été sa maîtresse et qui, semble-t-il, il est refilé à Jules Verne au nom de leur indéfectible amitié. Là, on est entre l'adaptation et le pillage. Regardez le titre, c'est Maroussia par Pégistal. Alors, bien sûr, il met « d'après la légende de Marco Vosvoy ». Et dans sa préface, il dit un petit mot « C'est à Marco Vosvoy qu'appartient la première pensée du type charmant dont je me suis épris. C'est donc un devoir de conscience et de cœur pour moi, vis-à-vis de l'auteur russe avec lequel m'unissent des liens d'amitié, de lui reporter la part d'éloge qui lui est due. » En fait, elle a mis en marche le démarreur, c'est lui qui conduit la voiture, et il y a un mélange de séduction personnelle et de séduction éditoriale. Alors ce mélange, c'est bien la caractéristique d'Hetzel, n'oublions pas qu'il a été, dans sa jeunesse, comme le dit M. Jean, le séducteur impénitent qui ravage les cœurs sans pitié. Mais il faut reconnaître aussi que Hetzel sait très bien ce qu'il plaît à son public jeune et qu'avec l'accord d'Alphonse Daudet, il va réviser le texte du Petit Chaux, Histoire d'un enfant, qui était destiné à une clientèle adulte, et ça va devenir, en inversant le titre, pour sa bibliothèque d'éducation, Histoire d'un enfant, le Petit Chaux. Alors, je vais passer très rapidement au marketing éditorial. J'ai déjà parlé de la pré-publication, mais il faut voir tout ce que Hetzel a apporté sur l'affiche. Je le disais au départ, Hetzel est le créateur de l'affiche de librairie et il va être, et Louis-Jules continuera, le créateur de l'affiche d'étrennes. C'est important parce que ça présente le catalogue de la maison sous une forme qui est à la fois dynamique et apéritive. Mais surtout, on peut dire que le talent et peut-être le génie des ailes, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de pouvoir renouveler le contenant sans modifier le contenu. Alors, on peut bien entendu penser à la déclinaison de Jules Verne et au plat. Vous avez là la Mappemonde dorée, le steamer, les initiales et la feuille d'acanthe. Jauzac prétend même qu'il y aurait 13 000 à 15 000 variantes possibles de ces plats. Non seulement il fait varier les plats, mais même parfois, pour un même plat, il fait varier les nuances. Regardez par exemple ces enfants du capitaine Grant, quatre cartonnages à la bannière avec des nuances différentes. Alors, on quitte un petit peu ici la littérature de jeunesse, puisque ces ouvrages sont faits pour être vus beaucoup plus que pour être lus, mais il faut bien comprendre aussi que ce qui permet à Hetzel de publier des ouvrages pour la jeunesse et aussi de publier ses propres ouvrages qui sont de moins en moins lus et qui font des bouillons de plus en plus grands, c'est le succès des voyages extraordinaires, quand on sait que le Tour du Monde en 80 jours a été tiré à 100 000 exemplaires, toutes éditions confondues, ça permet de comprendre qu'avec une locomotive pareille, on peut accrocher un certain nombre de wagons. Alors, je vais terminer sur la postérité d'Hetzel Stahl. Si les spécialistes reconnaissent que Hetzel a apporté à la littérature de jeunesse, l'auteur Stahl est aujourd'hui un petit peu oublié. Jules Verne l'avait dit lui-même, d'ailleurs, je cite. Votre ennemi à vous, c'est Hetzel. C'est le libraire qui empêche Stahl de travailler. Voilà ce que c'est d'être double. Alors, c'est pourquoi, lors du centenaire de Jules Verne, j'avais émis ici l'hypothèse de la double paternité. L'idée que Hetzel, tout le monde sait que Hetzel a joué auprès de Jules Verne le rôle du père que ce dernier aurait voulu avoir et qu'il n'a pas su être lui-même vis-à-vis de son propre fils, une sorte de père spirituel qu'il a mis au monde de la littérature. Ce qu'on sait moins, c'est que Jules Verne représente pour Hetzel l'écrivain qui n'a pas su devenir, qui est resté un gestionnaire de sa maison d'édition et qui, comme il le dit lui-même tristement, n'écrit plus que pour les mioches. Et au fond, s'il a voulu apporter sa griffe avec une certaine dérision sur le déroulement, les personnages et la présentation des Jules Verne, c'est qu'il a bien compris que Jules Verne pouvait se passer de lui et qu'en même temps, il n'a pas quand même renoncé complètement à être l'écrivain sale qu'il voulait être. Alors, je terminerai par là. On va approcher de ce qui est à la fois le bicentenaire et le centenaire des ailes, bicentenaire de la naissance et centenaire de la chute, puisque en 1914, rachète Jules Verne. C'est peut-être l'occasion, comme le disait Jean-Yves Mollier, de retrouver Stahl. On va republier aujourd'hui une partie de ses œuvres pour la jeunesse et notamment de ses albums Lily. Et c'est probablement dans cette fraîcheur du texte et des dessins, dans ces quelque sorte épopées des héros enfantins qui sont mis en scène, qui sont mis en page, qui sont mis en couverture, qui sont mis en image et qui sont croqués par les dessinateurs qu'il a embauchés, que se révèle un peu une partie des avancées que Hetzel et Stahl ont fait pour la littérature de jeunesse. On m'avait demandé de faire entre 30 et 35 minutes, j'ai fait 34 minutes 30, donc il me reste 30 secondes pour vous remercier de votre attention.